Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Et ce soir, bien évidemment, on va s'attarder sur le Grand Prix d'Italie qui s'est disputé hier sur le circuit du Mugello. Pour m'accompagner dans ce débrief, et bien évidemment, j'ai toujours mes acolytes. Alexis, salut Alexis, ça va ?
Très bien.
Michel ?
Salut Eric.
Vient juste de se poser, l'avion est arrivé il y a quelques minutes, ça a été un petit peu la course. Et Monsieur Stad, Thomas Morcellino, ça va Thomas ?
Ça va très bien.
Bon, alors ce soir évidemment, on va parler de ce Grand Prix. On aura le débrief de Michel Turcot, on aura la rubrique de Alexis, et puis Olivier.
Oui,
Thomas reviendra sur les statistiques qui sont liées à ce Grand Prix d'Italie. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes donc Facebook de Sans Concession, de Moto Revue, de Moto Journal et de Moto Station. Vous pouvez poser vos questions. Les plus intéressantes seront sélectionnées et celles qui seront passées à l'antenne, eh bien, gagneront, Alexis, quelques petits cadeaux.
Alors, comme il y a 15 jours, on a deux jeux MotoGP 21, Xbox et PlayStation. Donc ça, c'est pas mal. Et puis aussi, ce soir, un pack iPhone pour les motards, pour
graisser leur chaîne, kitchen.
Nettoyer. Voilà, les petits cadeaux du jour.
D'accord. Et donc, pour terminer l'émission, dans la seconde partie de l'émission, on aura le plaisir de recevoir Pascal Couturier, qui est le directeur de Show Europe, et on pourra parler bien un petit peu des contrats, des relations qu'un équipementier avec son pilote. Bref, une deuxième partie d'émission qui devrait être très intéressante. Allez, on commence tout de suite par le débrief de Michel. Voilà donc le débrief de Michel. Michel, donc ce Grand Prix, c'était le sixième de la saison. Un Grand Prix qui, personnellement, au niveau de l'intensité de bagarre en course, n'a pas été extraordinaire. Par contre, il y a eu pas mal de rebondissements. Mais avant de rentrer dans cette analyse, Michel, évidemment, impossible de passer sans évoquer malheureusement l'accident qui a coûté la vie au jeune Jason Dupasquier lors des essais qualificatifs pré-Moto 3. Un accident qui a un peu plombé le paddock aussi.
Bien évidemment, hein, quand on perd un membre de sa famille, le week-end devient compliqué. Le dernier accident de ce type, c'était en 2015 à Barcelone avec Luis Salom. 2016, pardon. Donc voilà, c'est pas très longtemps. Il y a 10 ans, on perdait Marco Simoncelli. Donc c'est vrai que c'est des moments compliqués. Voilà, en plus c'est arrivé donc le samedi après-midi pendant la séance de qualification des Moto 3 et le décès. On a appris le décès le dimanche matin, à la mi-journée, juste avant le départ des Moto 2. Donc ça a été très très lourd à porter, quoi.
Ouais. Et puis il y a eu quand même un peu de polémique. On a vu Petrucci. Enfin, moi j'ai lu Petrucci sur les réseaux qui disait que face à ce genre d'accident, on reste avant tout des hommes et que ça aurait été préférable de pas courir. C'est la gestion de l'annonce aussi. Quand on voit les pilotes regroupés avant le départ pour rendre hommage. Bien sûr qu'il faut rendre hommage. On n'est pas là pour dire qu'il fallait pas rendre hommage, mais le moment était peut-être pas le mieux choisi, non ?
Oui, disons il y a plusieurs choses. On va déjà évoquer quand même l'accident en lui-même. Donc, un accident en moto 3 dans les petites cylindrées, un accident mortel, pardon, c'était plus arrivé depuis 1983.
Je crois que c'est sauf erreur.
Ouais. Et c'était un pilote suisse. Donc c'est assez rare. Malheureusement, voilà, Jason est tombé et il a été percuté derrière. Alors les images, on a du mal à voir un petit peu ce qui se passe, mais a priori, ça serait plutôt Jérémy Alcoba qui l'aurait percuté. Enfin, bon, quoi qu'il en soit,
après, oui,
c'est un incident de course. Voilà, Jason, c'était un espoir suisse et on sait que la Suisse n'a plus beaucoup de pilotes. Hein. Thomas Lüthi est sur la fin, donc c'est vrai que c'est avant tout tragique pour la famille. Mmh. 19 ans, voilà, c'était sa deuxième saison de Grand Prix. L'an dernier, avec le team Prustel, il avait marqué aucun point. Et là, depuis le début de l'année, il était dans le coup. Il marquait des points régulièrement. Il avait fait une belle 7e place à Jerez. Donc, c'est vrai qu'il était en train d'éclore, on va dire. Donc, c'est tragique.
dans les points, toutes les courses. Ouais. Ouais, un gros déclic cet hiver, ils m'en parlaient récemment.
Et c'est vrai que ça fait toujours un choc, mais c'est vrai que la sécurité a énormément progressé, mais ça, c'est le cas de figure d'un accident qu'on peut pas gérer.
On pourra jamais, risque zéro, jamais.
Et on oublie souvent que malheureusement, c'est dangereux. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Bon, allez.
Donc après, on va quand même revenir sur l'incidence qu'a eu. Donc tu en parlais, la Dorna a décidé d'honorer sa mémoire avec une minute de silence juste à un quart d'heure du départ du MotoGP. Donc là, effectivement, on peut se demander si c'était très judicieux. On imagine, avant de prendre un départ, se concentrer juste après avoir appris le décès d'un autre pilote, c'est difficile. Bagnaia, qui est tombé en course, a dit qu'il avait vraiment eu beaucoup de mal à se concentrer. Petrucci a dit on n'aurait pas dû prendre le départ. Donc c'est vrai, dans ces cas-là, c'est compliqué. Et Jack Miller a même dit, lui a remis en cause un petit peu la gestion de ces moments-là, et notamment pendant l'accident, puisque donc l'intervention des équipes médicales a duré très longtemps sur le circuit. On a fait venir un hélicoptère médical qui s'est posé sur la piste, donc pendant plus d'une demi-heure, on avait ces images assez lourdes et qui tournaient. Et pendant ce temps-là, les pilotes de MotoGP étaient prêts pour la FP4, donc ils étaient dans le box, équipés, et ils ont des écrans sur lesquels tournaient en boucle ces images. Donc c'est vrai que tout ça, la gestion mériterait d'être améliorée. Ouais.
Et puis Bagnaia disait aussi que si ça avait été un pilote MotoGP, on n'aurait probablement pas couru. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'effectivement, ça aurait été...
La dernière fois qu'on a eu une course annulée, c'était Marco Simoncelli, mais c'était encore une fois, il s'est tué dès le début de course. Et là, on savait, il a perdu son casque. Enfin, je veux dire, c'était... Donc là, c'était pas possible de demander... Enfin, c'était une évident que la course allait être annulée. Là, c'est... Le cas de figure est différent. De la même manière, pour Luis Salom, on n'a pas...
Je crois que là, ça avait été... Ils avaient posé la question à l'époque à Luis Salom, à la famille, pour savoir... pour savoir s'il fallait rouler, et du coup je crois que la famille avait dit non, il faut continuer.
Voilà, après dans ces cas-là, c'est soit soit on dit on annule l'événement pour par respect pour la famille, ou alors on court pour
le
copain qui est mort, quoi. Rossi a eu, je pense, des bons mots par rapport à ça. Il dit, dans ces cas-là, c'est soit tu poses ton casque, tu rentres chez toi et puis c'est terminé, soit tu fais ils sont conscients des risques, donc soit tu remets ton casque et tu...
Justement, Marc de Rouen nous demande si un pilote n'avait pas voulu prendre de départ, est-ce qu'il aurait été sanctionné?
Non, d'ailleurs, le coéquipier de Jason, le pilote japonais, n'a pas pris de départ.
Et Thomas Lutti
non plus. Et idem, il y a un jeune pilote suisse de la Rookies Cup qui n'a pas couru. Ouais.
Bon, allez, on va passer au débrief. Juste pour terminer avec cette rubrique un peu triste, on va juste rendre hommage également et dédier cette émission à Thomas Bonnecarrère, qui nous a quittés en début de semaine, juste après le Grand Prix de Monaco. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Thomas. Allez, on passe au fait marquant. Michel, on va essayer de retrouver un petit peu, nous aussi, notre sourire. Parce que le sourire, c'est les Français qui nous l'ont donné hier.
Bah oui, Fabio, troisième victoire, quatrième pole position d'affilée. Troisième victoire, si on met le Grand Prix de Jerez, où ses bras l'ont lâché, je pense qu'il pourrait compter une victoire de plus.
Une victoire de plus, ouais.
Il a encore dominé de la tête et des épaules ce Grand Prix d'Italie. Alors, il n'était pas le favori. Et là, ça fait, il vient d'enchaîner deux courses où, sous la pluie, on ne l'attendait pas. Au Mugello, on attendait des Ducati, et c'est lui qui a gagné. Donc, il a récupéré pour ce Grand Prix d'Italie le All Shot Device à l'avant. On en a beaucoup parlé.
Ah, alors, d'ailleurs, attends, Michel, je te coupe. Parce que le All Shot Device, notre ami Thomas, ici présent, a consacré un très bon article. Je vous propose, si vous voulez tout comprendre sur le All Shot Device, eh bien, vous allez en kiosque, vous cherchez ce GP Racing, le numéro de 37, ce mois-ci, 37 mai, juin, juillet, et vous comprendrez tout sur le All Shot Device. Voilà, excuse-moi, c'était une petite minute de promotion pour Thomas.
Sur le shot device qui permet de bloquer la fourche en position basse, donc qui permet pendant le départ d'éviter le wheelie, donc de passer plus de puissance au sol. Il demandait ça depuis très longtemps à Yamaha. Il a eu pour ce week-end, et il a fait un départ exceptionnel puisqu'il est au coude à coude avec Bagnaia jusqu'à ce qu'ils enclenchent la quatrième et que la Ducati fasse la différence. Mais quoi qu'il en soit, il arrive à virer au premier virage. Il est deuxième, et puis il a réussi à mettre la pression sur Bagnaia qui est parti à la faute. Alors Bagnaia, j'en ai parlé parlait tout à l'heure, a dit qu'il n'était pas très concentré. Quoi qu'il en soit, il a fait une erreur. Et puis après, on a eu Zarco qui s'est accroché derrière un bon moment. Et
qui
n'est
pas même passé en tête, furtivement, mais qui est passé en tête pendant deux tours, je crois, c'est ça.
Voilà, ils sont un peu chicorés tous les deux.
Mais c'était propre, hein. ça m'a fait plaisir, entre guillemets, parce qu'on voyait qu'il savait que Fabio était derrière lui et qu'il fallait qu'il le bloque. Il n'était pas, entre guillemets, sale comme des fois on peut voir des manœuvres. Tu vois,
non, mais surtout, le circuit du Mugello, on parle beaucoup de sa ligne droite, mais aussi ses chicanes extrêmement rapides. Et là, c'était clair. Ça permettait de voir les qualités des deux machines. Hein. On a une Ducati qui ressort très bien des virages lents, on va dire, avec de l'accélération. Et puis cette Yamaha qui permet de rentrer en virage. Il prenait les trajectoires qu'il voulait. Ouais. Donc il s'est pas laissé faire par Johan. Et puis après, à coup de 2 dixièmes, il a fait 3-4 tours avec 2 dixièmes, 2 dixièmes, 2 dixièmes. Il a creusé le trou. Puis là, après, une fois que l'avantage est pris, qu'on peut plus être repris en ligne droite. Il a augmenté, il a déroulé, il a pris une bonne avance, et il a parfaitement géré sa course, donc magnifique.
Donc ce qui fait qu'au classement du championnat du monde, eh bien avec cette nouvelle victoire et la quatrième place de Johan Zarco, on a de nouveau deux Français en tête du championnat du monde. Alors Thomas, je te disais, depuis quand c'est pas arrivé, mais c'est vrai que j'allais chercher loin, mais en fait loin c'est Doha en début de saison, mais sinon avant c'était jamais arrivé. Donc là c'est quand même exceptionnel quoi. On a.
Oui. Et puis encore une fois, Johan a fait aussi. Alors il n'est pas sur le podium. On a longtemps cru qu'on allait un premier doublé avec un 2, mais bon voilà, il s'est battu longuement avec Oliveira et Emir. Et en fin de course, les pneus usés, sa moto bougeait beaucoup et il a dit qu'il physiquement il a manqué un petit quelque chose pour s'accrocher jusqu'au bout. Mais voilà, on sent que petit à petit, il commence vraiment à la maîtriser de mieux en mieux, cette moto. Et ça va être intéressant de voir, même si les prochains tracés, on peut imaginer que Fabio, enfin, en tout cas, ils seront à l'avantage de Fabio. Barcelone, il a gagné l'an dernier. Il avait fait son premier podium.
Jusqu'à présent, on avait des pronostics en se disant Le Mans, ça sera plutôt favorable à un tel. Ici, au Mugello, ça va être un carton plein pour Ducati. D'ailleurs, à ce sujet, malheureusement, je peux vous le dire d'ores et déjà, pour le concours et le casque de Johan Zarco, personne n'a trouvé. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas Ducati sur le podium, Thomas, c'était pas arrivé depuis
2014.
Au Mugello, bien sûr. Donc voilà. Après, par contre, il y a une marque qui a retrouvé le sourire en Italie. C'est une marque autrichienne, c'est KTM.
Oui, KTM avec deux pilotes dans le top 4 hein, et un podium d'Oliveira.
Dans le top 5.
Dans le top 5, pardon. Podium d'Oliveira qu'on n'attendait pas, hein, puisqu'on se souvient qu'au Qatar, les motos avaient souffert de leur d'une vitesse de pointe insuffisante. Voilà, là il y a des progrès. Alors il y a deux explications. Un nouveau châssis, dont les pilotes disent le plus grand bien, et puis un nouveau carburant français chez les deux factories, ETS, qui est un carburant réservé à la compétition. C'est une petite société qui est du côté de Rouen, qui équipe aussi Suzuki, et on voit que
les Suzuki marchent plutôt bien.
Donc c'est vrai, ça va agacer, je pense, nos amis de chez Elf, puisque on sait qu'Elf est partenaire de l'équipe Tech 3. C'est bien, ça va créer peut-être un petit peu d'émulation, quoi.
Et puis on précise que justement avec ce nouveau carburant, Brad Binder a égalé la meilleure vitesse de pointe de l'histoire de Johan Zarco, 362,4 km/h, exactement la même.
Par contre, lui, il a tourné au bout.
Au Mugello, et en plus, il a pris le virage.
Exactement. Et le dernier record au Mugello, puisqu'on se souvient que l'an dernier, il n'y a pas eu de course là-bas, en 2019, la top speed, c'était du 356. Donc, il y a quand même eu une belle amélioration sur ces deux années.
En plus, je crois qu'il l'a fait sans aspiration. Ouais. Il a fait vraiment tout seul.
Et pour revenir, parce qu'on a un peu évoqué Ducati.
Oui, c'est ce que j'allais te lancer là-dessus, Michel. Donc, c'est la déconvenue quand même.
C'est la déception. Après, bon, Bagnaia a été. Je pense qu'il aurait pu se battre avec Fabio jusqu'au bout, hein, puisqu'aux essais, il était là. Par contre, Miller, un peu en difficulté. Il s'est plaint du vent. Il n'était pas comme on aurait aimé qu'il soit, quoi. En tout cas.
Et encore une fois, c'est Johan qui porte les couleurs Ducati finalement, parce qu'il avait déjà été premier Ducati en course, et là c'est encore lui qui porte les couleurs de la marque. Ça va vraiment finir, tu le disais l'autre jour, ça va vraiment finir par agacer les sponsors.
Pramac a re-signé d'ailleurs ce week-end 3 ans. Avec Ducati.
Ouais. 3 ans avec Ducati, et on précise que Ducati a re-signé également Miller, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. Oui.
Et Bagnaia, pour l'instant, c'est pas encore.
Bagnaia, il y a un contrat de deux ans.
D'accord.
L'année prochaine, a priori, on risque fort d'avoir 8 Ducati. Hein, c'est quasiment fait, puisqu'on aura avec le team le team de VR46 et deux chez Grésigny, puisque Grésigny va récupérer son équipe après l'IA s'engageant de manière officielle avec ces deux pilotes.
D'accord. Alors, on a parlé de Ducati. Par contre, on va parler d'une marque où depuis le début de l'année, on ne sait pas par quel bout commencer, mais ça va toujours aussi mal chez Honda, voire pire.
Ça va même de plus en plus à quelques chiffres peut-être.
Il
a passé note là, donc
maître
on va
statistique,
voir,
ouais. Maître statistique, s'il vous plaît.
Non, mais écoute, déjà le record de disette, ils étendent parce qu'en fait ils avaient atteint leur record au Mans, donc c'était 19 courses consécutives sans victoire. Là, ils étendent, ils passent à 20. Et ensuite, pas de Honda dans le top 11, parce que le premier Honda, c'est Paul Espargaro en deuxième position. Au Mugello, c'était jamais arrivé depuis leur retour officiel en 82. Donc, effectivement, là, c'est compliqué.
Alors, beaucoup à dire sur Honda. Hein. On va commencer peut-être par Marquez, qui a encore fait, qui s'est illustré, mais pas dans le bon sens. Donc, on l'a vu aux essais.
Aux essais, il y a eu déjà la polémique.
Voilà. Prendre une roue, on peut comprendre. Il est en difficulté physiquement. Ouais. Il a dit, il a besoin. On sait que le Mugello, c'est un circuit hyper rapide avec ses changements de direction rapide. Enfin, très vite, ça, avoir un point de repère devant, ça aide toujours au niveau du chrono. Donc, on peut comprendre qu'il ait décidé de prendre une roue. Mais la façon dont il a fait Vignales, c'était oui. grotesque.
C'était pas pour l'énerver, lui mettre aussi de la pression, sachant que Vignales était aussi comme lui en.
Mais là, on sent qu'il vit tellement mal ses problèmes qu'il essaie d'embrouiller les autres. Quoi. Au warm-up, il a fait pareil avec Bagnaia. Bagnaia s'est arrêté, il s'est arrêté derrière lui. Enfin, warm-up, c'est ridicule. Et en course. Il va percuter Binder, c'est lui qui tombe. Binder se retrouve avec son airbag bloqué. Il faut deux tours pour reprendre sa position. Morbidelli sort de la piste. Enfin voilà, il a encore fait un peu n'importe quoi. Et alors que pendant les essais, il a expliqué que voilà, il avait compris qu'il fallait qu'il soit patient, que son épaule. Enfin, il a un discours.
Qu'il l'applique pas et les faits vont à l'inverse en fait.
Faites ce que je dis, mais je le fais pas moi. Quoi.
Donc, après le Grand Prix de France, il a aussi dit que finalement on pouvait pas aller contre sa nature. Sa nature c'était d'attaquer tout le temps.
Là, le problème c'est qu'il est au-dessus de ses lattes, qu'il fait n'importe quoi et qu'il risque en plus à chaque fois de se blesser. Enfin, on pourra discuter à Alzamora, il croise les doigts dès qu'il prend la piste. Donc, et dans cette équipe, il n'y a personne capable de gérer le pilote. Alors, sportivement, la gestion d'Alberto Pucci est lamentable et techniquement, ils sont tous à l'ouest. Je veux dire, la moto, elle est de moins en moins performante. Alors, on met ça sur le fait que Marquez n'est plus là pour la développer. Bon, c'est une chose.
Mais l'an dernier, il avait fait du bon boulot et commençait à dire qu'il avait justement bien travaillé.
Qui a dit qu'il avait fait du bon boulot? Enfin, le problème, c'est que la moto, le petit Marquez qui l'an dernier fait deux podiums, là cette année, il tombe, il s'est chute sur chute, il a perdu confiance, il sait plus où il est. Nakagami, les Japonais lui mettent la pression en pensant que c'est le futur champion du monde. Il a jamais fait un podium. Et Paul Espargaro, là, qu'est-ce qui lui arrive? Il perd un appendice aérodynamique. Il a touché personne, c'est décroché. C'est-à-dire que la moto, ils ont des problèmes techniques indigne du HRC quoi. Ouais. C'est la gestion, la gestion globale de l'équipe Honda Repsol. Je pense qu'à un moment donné, du côté du Japon, ils vont un peu s'agacer quoi. Sachant en plus qu'ils ont signé Marquez 4 ans avec un salaire de ministre.
Ouais.
Donc, je pense qu'il va falloir que certains rendent des comptes à un moment donné.
Et puis en plus, la semaine prochaine, on est à Barcelone, donc ça va encore rajouter un peu de pression supplémentaire, j'imagine.
Et puis après, c'était étrange. Je voulais juste rajouter que c'était étrange pendant tout le week-end. En plus, il y avait quelque chose qui planait sur le fait de savoir s'il allait finir le week-end ou pas, Marquez. Alberto Pucci avait.
Il est allé faire des essais avec une 600 après le Mans. Et il a fait un run, il s'est arrêté. Il n'est pas bien sur la moto. En fait, c'est plus son. Le bras est guéri. Enfin, la fracture est guérie, l'infection est.
La consolidation est faite, mais après c'est d'autres.
L'infection, il va arrêter bientôt les antibiotiques parce que l'infection est jugulée. Donc, la blessure dans l'an dernier, elle est entre guillemets réglée. En revanche, les problèmes aux épaules, qui sont dus à ses multiples chutes. Hein, on sait qu'il s'était fait opérer, il s'est fait opérer des deux épaules, des ligaments, parce que à force de tomber, il y a l'addition qui arrive, quoi. Et c'est cette épaule-là qui lui pose problème. Donc il n'arrive pas à récupérer physiquement il n'arrive pas à avoir la position dont il a besoin pour piloter. Donc est-ce que ça va revenir? Là, c'est pareil, personne ne le sait.
Ouais.
Donc c'est quand même inquiétant. Et lui, sa gestion émotionnelle, elle est aussi problématique.
Ok, très bien Michel. Ben, on va clôturer ton débrief sur ces paroles en espérant que dès le week-end prochain, Honda reverra la lumière du côté de Barcelone. On va passer maintenant à l'instant stat avec Thomas. Alors Thomas, ce Grand Prix d'Italie au Mugello, on en a largement parlé, on a évoqué évidemment quelques stats, mais qu'y a-t-il d'autre à aller chercher un petit peu derrière la coulisse ?
Aller chercher, ben en fait, si vous vous souvenez, il y a 15 jours, je vous ai dit que pas d'Espagnol sur le podium, sur deux courses consécutives, tout ça, tout ça. Et donc du coup, on a eu un Espagnol ce week-end grâce à Joan Mir. Et donc mine de rien, c'est le 500e podium espagnol en catégorie reine. Donc l'Italie mène toujours avec 686 podiums en catégorie reine, mais bon, c'était à souligner que l'Espagne a atteint son 500e podium, sachant que c'est que depuis très, très récemment, en fait, qu'ils ont commencé à truster les premières places, les podiums. C'était à l'époque avec Trivier. Donc, c'est pas si, contrairement à l'Italie qui est là depuis le début. Là, c'est juste pour souligner qu'ils arrivent déjà à 500 podiums. Donc, bon, ils ont beaucoup de représentants, mine de rien. Donc, voilà. Oui. Deuxième chiffre dont je ne suis pas encore sûr, donc là, je suis encore en train d'enquêter, c'est donc, en fait, le podium de Fabio Quartararo, c'est le 750e, probablement, de Yamaha en catégorie reine. J'ai juste un doute sur le TT75 et le TT74, savoir si c'était bien des Yamaha sur le podium et pas des hybrides. Mais toujours est-il que si c'est 750, en fait, il compte 100 podiums de moins, tout juste, que Honda, qui en compte 850 et qui, depuis Alex Marquez au Grand Prix de France, ou à Teruel.
Aragon.
Ouais, à Teruel. Je ne sais plus si c'est Aragon, Teruel. Ouais. Aragon. N'a pu occuper une place sur le podium. Donc, du coup, là, Yamaha regagne du terrain sur ça. Et puis, un dernier chiffre peut-être intéressant. Donc, c'était déjà le cas après le Portugal. Là, on a, juste pour parler un peu du Moto 2, on a eu Joe Roberts qui a été privé, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, qui a été privé de la troisième place sur le podium. Donc, il termine quatrième, mais il y a aussi Cameron Bobier qui, lui, termine huitième position, son meilleur résultat cette saison. Et donc, ça fait deux Américains dans le top 8. Donc, ce n'était pas arrivé en catégorie intermédiaire depuis Laguna Seca en 89. Donc ça remonte à
c'était hier.
Ouais, c'était donc c'était déjà arrivé après le Portugal.
Hein. Notre ami John.
Ouais, Chinski de mettre dans les deux.
Je crois qu'il y avait lui et Phyllis, je sais plus si c'est j'ai un doute, Tom Phyllis, je crois.
Non, Tom Phyllis, c'est les 60. Phyllis. Ouais, Jim Phyllis.
Jim Phyllis.
C'est pas Jim Phillips, hein, c'est Jim
Phyllis.
Phyllis. Phyllis, ouais.
Voilà, donc c'était juste pour ramener ça, mais c'était, comme je le précise, hein, ils avaient déjà fait top 10 tous les deux au Portugal, donc c'était déjà le record, Laguna Seca 89, donc voilà, mais là, ça se resserre de plus en plus. Et...
Cameron Bobier, c'est pas mal hein, ce qu'il fait cette saison,
sa
première année, après pas mal d'années en Moto America sur une superbike qui n'a rien à voir avec une Moto 2.
Et puis surtout, il supplante son coéquipier Marcos Ramirez,
qui a chuté encore, je
crois. Ouais, c'est compliqué pour lui, et qui normalement devrait avoir le statut numéro 1 chez American Racing.
Très bien Thomas, merci. Et ben, on va passer justement, la transition est toute trouvée, on va passer maintenant à la rubrique d'Alexis, le débrief d'Alexis. J'ai perdu le timer, il n'y a plus de timer. J'ai un décompte sur 30 minutes. Alors Alexis, ta chronique, on va évidemment parler Moto 2, Moto 3, mais
pas mal de catégories ce week-end, on a passé beaucoup de temps à suivre tout ça. Alors Moto 2, première victoire de la saison pour Rémi Gardner, qui était déjà quasiment sur tous les podiums. Là ça y est, enfin il gagne et il bat surtout son coéquipier Raúl Fernández pour 14 millième, deuxième écart le plus serré de l'histoire du Moto 2. Bonne pioche hein, pour Rémi Gardner, parce que je pense qu'une nouvelle fois, s'il avait terminé derrière Raúl Fernández, ça aurait fait mal pour lui. Sam Loves, encore une chute, alors qu'il était deuxième. Donc là,
il a repris son rythme de croisière, malheureusement.
Ah, et Augusto Fernández, l'autre Fernández, voilà. les deux pilotes VDS
mauvais
dans le bac
VDS
à gravier, comme le week-end précédent. Ouais.
Et puis la troisième place, c'est, tu l'as dit Thomas, Marco Bezzecchi qui la récupère sur tapis vert. Il termine en fait derrière... aide-moi.
Raúl Fernández.
Non. Oh là là.
Joe Roberts.
Joe Roberts, merci.
Non, mais je pensais que je faisais.
Il y en a un qui suit, c'est bien.
Merci. Il termine derrière Joe Roberts, mais Joe Roberts a mordu sur la ligne verte. On a eu le cas aussi en MotoGP. Beaucoup de polémiques. Encore une fois, dans le dernier tour, on est immédiatement dépossédé d'une position si on mord un peu dans le vert. Donc, Bezzecchi qui sauve les meubles à domicile, mais loin quand même du duo Ajo. Moto 3.
Ouais.
Grosse course en paquet avec le phénomène des aspirations au Mugello, hein, toujours ces courses intéressantes. Et Denis Foggia qui retrouve enfin la victoire. Très ému à l'arrivée, Denis Foggia. Massia sort la tête de l'eau, deuxième. On se rappelle, il a gagné la première course de la saison et depuis, ça avait été très compliqué alors que son coéquipier Pedro Acosta brillait de mille feux, j'ai envie de dire. Et puis Rodrigo, deuxième podium en carrière. Ça fait longtemps qu'il est là, Gabriel Rodrigo, et ça fait du bien pour lui en face.
C'est son deuxième podium depuis Catalogne 2018. Ça fait 109e course, je crois.
Pedro Acosta, toujours leader du championnat, il n'y a pas de souci. Oui. Notre petit prodige.
Notre moto de l'année prochaine.
Ça y est, t'as des infos, Michel ?
Bon, a priori, les deux, Garner et Fernandez, seront certainement pilotes Tech 3 l'année prochaine. Parce qu'il y a peu de chances que Petrucci et Lecuona soient conservés. Et donc, on peut imaginer que...
La saison des transferts commence de plus en plus tôt.
On arrive au mois de juin. Avant, c'était à Assen.
Voilà, j'allais le dire, tu vas te couper.
Mais là, c'est sûr qu'à Joux, encore une fois, aussi bien en moto 2 qu'en moto 3,
gros carton.
C'est quand même monstrueux.
Parce que du coup, à Costa.
Les deux sont en tête du championnat, je crois.
Et du coup,
moto 2, moto 3.
Et du coup, Acosta, en plus de ça, vu comme on en parlait tout à l'heure, vu que derrière ça chicorne quelques points, Massia, donc du coup, là, même Acosta en terminant 8e.
Il a deux courses d'avance en fait.
52 points d'avance, c'était pas l'écart comme ça après 6 courses, c'était pas arrivé depuis, sauf erreur, depuis 95 avec Haruchi Kaoki en tête du championnat.
Il a encore fait un sacré week-end, Acosta, même s'il termine 8e.
Première ligne. En passant par la Q1. Tout à fait.
Alors après,
un petit peu de Rookies Cup aussi, au Mugello ce week-end. Ça vaut le coup d'en dire un mot, puisqu'on a peut-être encore là un futur grand pilote. Puisqu'en première course, on a la victoire d'un Japonais, Furu Sato, le samedi, 15 ans seulement. Et c'était sa première course de la saison. Il n'a pas participé aux premières courses Rookies Cup de la saison. Il arrive, il gagne à 15 ans. Donc voilà, pilote à suivre.
C'est pas un pilote de l'ATC, non ?
C'est exactement, il a gagné les 4 premières courses de la saison en ATC. C'est l'Asian Talent Cup pour ceux qui suivent.
Il y a l'Asian Talent Cup, l'European Talent Cup,
la British Talent Cup.
On attend la French Talent Cup, on verra si ça arrive un jour.
C'est un peu plus compliqué.
Et puis David Muñoz qui gagne le dimanche et qui est en tête du championnat. Une petite image dont on n'a pas parlé, mais qui s'est produite juste avant le départ, c'est Enea Bastianini. Qui est venu percuter Johan Zarco sur la grille.
Alors, moi, j'ai ils se sont touchés, mais moi, je pense qu'il tape dans la moto quand il passe par-dessus, en fait. Je ne pense pas qu'il le percute. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi,
quand on voit en caméra embarquée
ou même sur la moto,
je pense
que c'est d'ailleurs pour ça que Johan n'est absolument pas blessé, parce que c'est le genre d'accident qu'on avait déjà
eu. Il a la selle cassée.
Mais en fait, la selle cassée, c'est quand il passe par-dessus, et je pense qu'il tombe sur la moto de Johan et. Peut-être que je me trompe, mais sur les images que j'ai pu revoir, j'ai l'impression que c'est lui qui abîme la moto.
Ouais, parce que sur ces phases d'arrivée sur la grille après le tour de chauffe, il y a l'all shot device, mais maintenant ils ont quand même des systèmes, ils désenclenchent à l'arrêt. Mais c'est surtout, on monte les freins, on garde les freins en température. D'ailleurs, on voit. Fabio le fait beaucoup quand il sort des stands aux essais. Ouais. Il met des grands coups de frein.
On le reconnaît à chaque fois.
Parce que c'est vraiment. C'est quelque chose à faire pour ne pas se retrouver au premier freinage sans frein. Le carbone nécessite de garder les freins en température.
C'est vrai que ce que disait Bastianini, c'est que c'est vraiment à la sortie du virage, au début de la grille. Donc il reproche un petit peu à Johan d'avoir peut-être freiné trop tôt. Bon, il a surtout pas été attentif.
Oui.
C'est un accident bête parce que quand qui lui a coûté sa course.
Non seulement il a dû repartir, donc il part avec sa deuxième moto la des stands, et puis il tombe en course et la moto prend feu.
Donc deux motos cassées.
J'ai Ducati, ils ont fait un peu du chiffre.
En plus, quand tu dis que Johan a freiné un peu tôt, il est déjà bien sur les marquages de la grille quand même. Quand tu vois les images, même s'il est sur les dernières lignes, il est quand même pas juste à la. Il est pas juste à la fin du vibreur, tu vois, à l'extérieur du virage.
Peut-être qu'il était en train d'enclencher, comme tu dis, le divide, d'activer le launch control. Et puis
ça servira de leçon. Voilà.
Oui, ou peut-être que Bastianini était lui aussi en train de regarder ses commandes.
C'est ça.
Et c'est vrai que.
Bah, ils ont de plus en plus de choses à faire.
Et puis encore une fois, on rappellera cette histoire de minutes de silence. C'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes, ils sont montés sur la moto un peu perturbés. Encore une fois, ce n'était pas bienvenu.
On passe au Superbike ?
World Superbike ce week-end à Estoril. On attendait Scott Redding.
Il a répondu présent
le samedi.
À Poitiers.
Voilà, donc le samedi, on s'est dit ça, c'est prometteur. Il va pouvoir mener la vie dure à Jonathan Rea. Et puis finalement, Réal, dimanche, a remis les pendules à l'heure. Deux victoires en course Super Bowl et en deuxième manche.
Je ne fais pas forcément de stats en Super Bowl, mais je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'il gagne deux fois consécutivement. Reading. Parce que du coup,
il avait gagné la dernière manche. Ouais,
mais c'est pas sur le même
Et puis, dans le même temps, donc, Toprak Razgatioglu, qui était en forme ce week-end aussi au Portugal.
Tu peux le refaire
Razgatioglu. et Reading ont été fébriles dans cette deuxième manche. Reading tombe, Toprak fait un départ volé. Donc, Réa s'envole encore au championnat. Voilà.
Reading aussi fait un départ volé aussi. Parce que,
il n'est pas sanctionné.
Pour si, que... si. Ah, si, si, il a été sanctionné par, juste après la course, donc il s'est pris 6 secondes, ce qui permet à Mayas de, et je ne sais plus qui d'ailleurs qui était derrière Mayas, de remonter au classement et de gagner quelques points. D'accord. Alors que Reading, lui, par contre, n'en marque pas du tout.
Et chez Ducati, pardon, je vous coupe, chez Ducati, c'était week-end aussi à oublier en Superbike, parce que la deuxième manche, donc Reading, c'est problème, Rinaldi s'est fait couper en deux par Gerloff. Pilote américain qu'on va suivre. Il avait d'ailleurs fait des essais l'année dernière en MotoGP. Sous la pluie, il avait.
Il avait aussi. Mais du coup, il partira de la pitlane à la prochaine course.
D'accord.
Enfin, sa prochaine course, il partira de la pitlane.
Et super.
Tu parlais de Lucas Mayas, on va en dire un petit mot. Lucas qui a quasiment pas roulé cet hiver, donc il découvre vraiment la Superbike et qui progresse petit à petit, qui a fait des essais intéressants, des qualifications intéressantes. Voilà, on l'attend dans le top 10 sous peu, on espère.
Ah, déjà, au qualif, il fait un top 10 et puis après.
Par contre, Super Sport, couleur française, j'ai aimé.
Super Sport, week-end compliqué pour Jules Cluzel, qu'on attendait mieux, alors qu'il fait podium quand même en première manche. Première manche remportée par Steven Odendaal sur la fameuse Bardal. Et puis une chute malheureusement en deuxième manche. Deuxième manche, c'est Dominique Agarter qui s'impose. Dominique Agarter qui roule aussi en moto-i, qui fait les deux championnats cette année. On passe au FSBK, championnat de France.
Qui fait un bel hommage juste pour souligner à
Jason Dupasquier,
son compatriote.
Oui, tout à fait. Troisième épreuve de la saison, FSBK à Lédenon. Alors, on a un Valentin Debise qui est
toujours aussi impressionnant,
qui est en route pour l'histoire.
Ouais.
6 sur 6, il a gagné toutes les courses Superbike de la saison, Valentin. Voilà, invaincu et au-dessus du lot. Pour vous donner une petite stat, en qualification à Lédenon, il colle plus d'une seconde une au deuxième.
Ouais, il a surtout battu le record de la piste qui tenait depuis des années et qui avait été établi par Sébastien Gimbert à l'époque où les BMW roulaient Michelin avec des pneus qualif.
Et puis entre-temps, il était corrigé également chez eux.
Oui, il a été
fait en Allemagne. Il fait les deux championnats, Valentin, Allemagne et France.
Il va falloir qu'ils construisent un abri pour les couples.
Par contre, ce qu'il disait, c'est vrai, c'est surtout en 600 parce qu'il s'est imposé devant Ludovic Cauchy, si je ne m'abuse pour ne pas écorcher le prénom, qui est le beau-fils d'Adrien Morillas. Et il dit, moi j'ai des minots derrière, donc ils me poussent, mais moi aussi je les embête, donc ça va tirer un petit peu le niveau vers le haut. Et c'est pas plus mal. Après, les gens, au bout d'un moment, quand les gens dominent trop, ils sont jamais toujours très, très bien acceptés, un peu à l'image d'Amaury Misera, par exemple, en pré-moto 3, où lui, c'est pareil, il a fait 6 courses, 6 victoires, 6 pôles, pas 6 pôles, mais 3 pôles, pardon. Et là, c'est pareil, ça commence un petit peu à grincer des dents. Mais bon.
Alors, on se souvient d'ailleurs, on parlait de Lucas Mayas tout à l'heure, qu'il me semble que Lucas Mayas a
fait 12 sur 12
à l'époque où il était en Super Sport sur la Dark Dog.
Dog Academy, la Yamaha.
Bon, derrière Valentin Debise, on a quand même le champion en titre Mathieu Ginès qui s'accroche, qui est sur le podium, qui est sur tous les podiums depuis le début de la saison, mais pas sur la première marche, malheureusement. Et puis, les BMW Tecma, c'est un peu plus régulier, mais on a quand même un podium pour Alain Teixeira et un podium pour Kenny Frey.
Et puis on va juste alimenter la polémique, c'est tous ces pilotes roulaient le week-end d'avant alors qu'il y a une limitation sonore de 99 décibels et que certains pilotes n'ont pas pu rouler. Donc voilà, on va essayer de trouver une explication rationnelle à tout ça.
D'accord. Petit mot du Super Sport. Deux bises, évidemment, les deux manches. Super Sport 300, on a un doublé d'Alexis Boudin qui c'est son retour. Hein. C'est sa première course de la saison.
Il était blessé au Mans.
Il était blessé. Donc, superbe retour. Alexis Négrier, qui reste solide leader, qui fait deux fois deuxième. Et puis, en OGP, tu l'as dit, Amaury Misera, invaincu depuis le début de la saison. Donc, il se tire la bourre avec Valentin Debise. On va voir qui tient jusqu'au bout.
Il faudrait les confronter tous les deux pour voir qui a raison. Mais en tout cas, c'est bien.
C'est quoi la première course c'est des mini GP là.
Je crois que ça. Je me demande si c'est pas au Paul Ricard. C'est au début de l'été, au mois de juillet, je pense.
Ok.
Bah écoute, t'es engagé, Doc.
Non. Ouais. Pas trop vieux.
Un peu trop lourd.
Ouais. D'accord. Okay. On avait dit pas le physique, Michel. On avait dit pas le physique. Parce que hormis Alexis, à mon avis, on est mal pour critiquer.
Bon, en tout cas. Je vais vous laisser, du coup.
bah, Non, on va conclure. Donc, merci en tout cas, Alexis. Et puis, ben, vous le savez, dans le cadre d'After Sunday, vous pouvez poser vos questions soit à Joan Zarco, soit à Fabio Quattararo. Et bien, justement, je vous propose d'écouter la question de Damien de Nice. Il a posé la question suivante à Joan. Qu'est-ce qui rend la Ducati aussi performante sous la pluie? La réponse par Joan Zarco.
Salut tout le monde. Eh bien, pour répondre à la question de la Ducati qui fonctionne si bien sous la pluie, je dirais que c'est son électronique qui fait vraiment la différence, parce qu'à mon avis, on gagne pas mal de temps à l'accel. Après, il y a tout plein de confiance à avoir, mais à mon avis, l'électronique nous aide beaucoup. Par contre, ensuite, quand ça devient séchant, j'arrive vraiment à me sentir à l'aise, parce que comme je pousse pas beaucoup les pneus, eh ben, en fait, les autres utilisent beaucoup les pneus, et moi, là, j'arrive à trouver un bon compromis et c'est ça qui fait la différence. Donc c'est plutôt simple à expliquer et après il faut savoir le sentir.
Voilà donc la réponse de Joan Zarco. Allez, on va passer maintenant à notre ultime rubrique avant de recevoir notre invité, Pascal Couturier. Eh bien, c'est notre jeu concours et le pronostic. Alors, le Grand Prix du Mugello, on en a parlé. Évidemment, comme beaucoup autour de cette table, on attendait une, peut-être voire deux Ducati sur le podium. Eh bien, malheureusement, personne n'a trouvé le trio parfait sur ce Grand Prix d'Italie. Donc, eh bien, malheureusement, le casque Joan Zarco Replica n'a pas été gagné. On va le garder. On le remettra en jeu un petit peu plus tard dans la saison, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de raison. Il va falloir que vous le gagniez avant la fin de cette saison 2021. Le jeu concours, eh bien, il porte pour le prochain Grand Prix. Alors là, on ne va pas se refroidir parce que c'est dès la semaine prochaine, en fait. C'est Barcelone, c'est ça. Donc, on l'a un peu évoqué. Michel, Thomas, Alexis, pronostic, circuit rapide. Mais tu l'as dit, Michel.
Mais pas trop.
Mais pas trop. Plutôt non. De la maniabilité.
Ah, c'est un circuit complet. Yamaha, Barcelone, c'est un circuit où la piste manque de grip.
Ouais, et puis il y a un nouveau, c'est un nouveau tracé en plus, donc du coup, il faudra pas prendre les références.
Il y a un virage numéro 10 qui est un peu différent. On se souvient que l'an dernier, la course, elle s'est déroulée en octobre, il faisait très froid, ouais. Donc là, on risque d'avoir très chaud. Voilà, faites vos jeux.
Non, mais écoute, moi, si tu me poses la question, je vois bien une Ducati là pour le coup, parce qu'elles ont toujours bien réussi là-bas, mine de rien, à l'époque Lorenzo, Dovizioso ou autre. Donc voilà, mais
c'est quand même une Ducati sur le podium.
Ah, sur le podium, non. Enfin, ouais, je pense que là, Fabio sera ultra favori, quoi. Parce que voilà, on rappelle que c'est là qu'il a fait son premier podium en MotoGP, c'est là qu'il a fait son premier podium en Moto2.
Sa première chute aussi, je crois d'ailleurs.
Ah oui, c'est
vrai. Exact. Ouais. Et puis voilà, il a gagné l'an dernier, donc il est un peu chez lui là-bas. Ouais. Et vu la forme du moment, je le verrai bien gagner la course.
Alexis, tu partages aussi?
Ouais, moi je dis Fabio, Mir et Bagnaia.
D'accord. Et Johan 4?
Ouais.
Bon, moi j'aimerais bien le voir sur la plus haute marche du podium, Johan, depuis le temps qu'il tourne autour. J'aimerais bien que ça se concrétise. On verra si ça sera à Barcelone. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. En tout cas, vous, pour jouer, eh bien, vous connaissez maintenant la procédure. À partir du jeudi, vous postez le poleman et la physionomie du podium. Et donc, on va vous parler du lot qui sera gagné dans quelques instants, parce qu'on va recevoir notre invité. C'est là où Thomas nous quitte. Merci en tout cas, Thomas, d'avoir partagé ces instants avec nous et ces statistiques. Tu vas à Barcelone, toi?
Ouais. Avec Michel. Ouais.
D'accord. Bon, alors vous nous ramenez du inside comme et du les contrats. Voilà, du Ramon et du queso, bien sûr. Et puis, dans quelques instants, donc on va accueillir Pascal Couturier, donc qui est le directeur de Choé Europe, et donc on va pouvoir parler un petit peu équipement, parler un petit peu du relationnel qui existe justement, et puis la confiance qui doit se créer, j'imagine, entre un équipementier et son pilote. Merci, Thomas.
Avec plaisir. Bientôt.
Prendre. Ouais, vas-y. Voilà, parce que vous l'avez compris. Bonjour Pascal, merci. Bonjour. De nous rejoindre.
Attends, merci de les équiper.
Et ben voilà, donc vous l'avez compris, il n'avait pas été gagné la dernière fois, Pascal, donc on le remet en jeu pour le Grand Prix de Barcelone. Ce sera donc le casque Alex Marquez Replica, le Choé Alex Marquez Replica, qui sera à gagner sur ce concours.
Choé, t'es avec Pascal, quand même.
Choé. Oui, Choé, j'ai dit Choé, pardon, Choé, excuse-moi. Voilà, Choé. France. Avec Quartararo, Choé, à la fin de la saison, je serai au top. Voilà. Bon, ben Pascal, en tout cas, comme je te le disais, ça nous fait plaisir de t'accueillir. Hein, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Pascal, j'ai dit qu'il était le directeur Europe de Choé. Ouais, j'arrive pas. Hein. Mais, tu as un passé de trialiste de haut niveau, puisque champion de France de trial, champion du monde par équipe et 4 fois champion du Japon.
C'est ça, ouais, c'est ça.
C'est ça, oui, dit-il.
C'est-à-dire qu'en fin de carrière, je suis parti au Japon, j'ai fait 4 années là-bas, et où j'ai roulé pour Yamaha. Et puis, ça m'a permis de travailler pour Yamaha Motor France, après pendant 10 années, puis après d'intégrer Choé, et de travailler donc pour maintenant une marque japonaise. Donc, on va dire que la boucle est...
Tu étais Choé pendant ta carrière ?
J'ai été Choé une partie. Ouais. J'ai roulé avec d'autres marques. J'ai changé souvent de marque de moto, voire d'équipementier. Ce qui m'a permis aussi de finalement de comprendre, là je fais un peu l'enchaînement avec ma gestion des pilotes, on va dire, pendant 7 ans en MotoGP pour Choé, donc c'était une très bonne expérience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'attache plus d'importance à la fidélité, alors que j'ai pas été forcément le plus fidèle pendant que je roulais, puisque les pilotes, c'est pas toujours évident d'arriver à avoir un suivi, de rester pour la même marque. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, notamment financière ou autre, hein, où on peut faire certaines erreurs. Donc, j'ai attaché quand même pas mal d'importance quand on démarre quelque chose avec un pilote. Ce que je fais encore aujourd'hui pour Choé France, je le fais plus en MotoGP, mais je le fais pour Choé France, de démarrer une relation qui puisse durer. On ne sait jamais, c'est jamais évident. Il y a tellement de choses qui se passent. Le pilote peut changer de moto, peut prendre une autre orientation dans sa carrière. Mais c'est vrai que le but, c'est de rester quand même le plus longtemps possible ensemble, de commencer à construire une image. Et on le voit, les pilotes ne changent pas tellement finalement.
Après, le casque, c'est quand même particulier. Il y a une notion de sécurité, mais aussi de confort. C'est pas évident de changer. Enfin, quand un pilote sort bien avec un casque.
Non, tu as raison de le signaler.
Le pilote, le moteur, hein, c'est vrai, quand on est bien dans un casque, ouais.
Alors, c'est pas évident, on va pas se mentir, on est entre passionnés. Il y a une option, il y a un paramètre financier à tout niveau qui rentre en jeu, mais que je comprends, parce que il y a des jeunes pilotes qui démarrent, ils ont besoin de budget, ils ont souvent, l'équipementier, ça leur permet de vivre, donc on comprend très bien ça. Maintenant, après, l'équipementier peut mettre ou pas mettre le budget qui va derrière. C'est tout à fait...
C'est
logique,
marché,
mais c'est vrai qu'à la base, bon, on a la chance d'avoir une marque connue, reconnue, je peux dire une marque de qualité, je ne vais pas dire le contraire. J'en profite.
Fais-toi plaisir.
Mais donc derrière, effectivement, on a la chance que les pilotes viennent souvent en priorité chez nous. C'est ce qui s'est passé avec Marc, notamment. Marc Marquez, qui est venu, qui nous a contacté via le distributeur espagnol à l'époque, en 2009. Il n'avait pas encore été champion du monde. C'était déjà un pilote qu'on pouvait... à fort potentiel, mais donc quand je lui ai amené le casque, on a regardé, il l'a mis sur la tête, c'est moi qui lui ai amené la première fois le casque dans son camion, donc il l'a regardé, bon j'ai vu de suite le petit sourire, et puis pour nous c'est important parce que...
Ça fait combien de temps que vous êtes en contrat justement avec
Marquez? Depuis 2010, hein, donc, c'était une relation à long terme, il a fallu bien sûr évoluer, il a fallu que nous on change aussi de braquet puisque... À l'époque, on avait passé des grandes années avec les Lawson, René, on avait passé des très grandes années, ça a permis à la marque aussi d'être connue mondialement. Et derrière, on a eu une période un petit peu où les Japonais s'étaient un peu moins investis, avaient gardé un peu les pilotes sans chercher forcément la performance. Quand j'ai repris la charge des contrats en MotoGP, c'est vrai que je rêvais, en ayant eu un passé effectivement de sportif, d'avoir un pilote qui brille en MotoGP. Je suis arrivé là avec Michael Rivoire, pour qui j'ai une pensée ce soir, parce qu'il a vécu un week-end difficile, le pauvre, mais...
Michael
s'occupe du MotoGP, qui fait vraiment le travail sur...
C'est lui qui est au contact des pilotes,
voilà, des pilotes tout le temps, donc bon, c'est pour ça que j'ai une pensée pour lui. Mais au-delà, on rêvait effectivement, on a vite rêvé d'avoir un pilote qui brillait à très haut niveau. On avait Chris Vermeulen, mais qui roulait bien, qui était un très bon pilote, mais des très bons pilotes, il y en a beaucoup. Un pilote exceptionnel, c'est difficile. Et c'est vrai, quand on arrive à démarrer une histoire avec un pilote, on va dire exceptionnel, comme du type Marc Marquez,
C'est combien un contrat, Marc Marquez?
Évidemment, je ne peux pas vous répondre, mais ça
ressemble à un secret. Marc Marquez, il a eu parfois des offres plus intéressantes que la vôtre financièrement. Il a choisi de rester chez vous.
Oui. Après, il y a toujours un compromis à trouver. Il ne faut pas, rêver. C'est aussi bien logique. Hein. Aujourd'hui, Marc, c'est notre image sur le... Alors, il y a eu du développement sur les casques. On parlait de sécurité, choses comme ça. Bien évidemment, on se sert des pilotes pour développer. C'est la principale raison. J'écoutais Eric Dussen lors de la dernière émission, c'était assez intéressant. Effectivement, là, nous, on est exactement
dans le même.
Oui, on a les informations. Michael Rivoire, donc sur les GP, remonte les informations. Après chaque GP, il fait un rapport. On se sert des informations, on demande aux pilotes. Et derrière, effectivement, il y a.
Après, c'est un pilote clivant, Marc, en termes d'image. On sait qu'il y a...
Oui, c'est sûr. Donc, au niveau mondial, il y a une image.
Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas d'image, mais je dis que c'est un pilote clivant. C'est vrai. Comment on étudie ce que va rapporter l'image de ce pilote
par rapport à ce qu'il peut.
Est-ce que l'investissement est rentable? De quelle manière on peut savoir si c'est rentable?
On ne peut pas répondre, je dirais même.
Tu ne peux pas le quantifier réellement.
Personne ne peut le quantifier. Je dirais déjà, ce qu'on peut quantifier, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on distribue sur tous les pays, sur tous les continents aujourd'hui. Nos produits. Donc après, derrière, l'image du MotoGP, notamment le pilote qui brille en MotoGP, va nous rapporter une image globale, je pense. Il faut le voir comme ça, mais tu ne peux pas le quantifier.
On a par exemple le casque réplica de son frère. Mm-hmm. Tu as aussi dans la gamme le Marc Marquez. Il y en a plusieurs. Ça, après, par contre, c'est clairement, tu peux le quantifier par rapport au succès que rencontrent les casques, non ?
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Donc, c'est de toute façon, si on le fait, c'est que ça nous semble rentable, mais le quantifier, c'est impossible.
Parce qu'après, sur du haut de gamme, c'est Choé. Quels sont les modèles les plus vendus aujourd'hui ?
Alors, les modèles les plus vendus, c'est des modèles aujourd'hui des modulables, des modèles plus touring sportif. Là, on est sur le casque haut de gamme hyper sport. Donc finalement, c'est pas le modèle le plus vendu, bien évidemment.
Marc de Mulhouse nous demande comment une marque choisit ses pilotes en MotoGP, sur quels critères. Déjà, est-ce que vous les surveillez peut-être dans les petites catégories, essayer de miser sur les plus prometteurs?
C'est difficile parce que on peut pas. Pour mon expérience, j'ai suivi surtout mon instinct. Après, la décision, elle se fait toujours en accord avec le Japon. J'ai surtout suivi mon instinct, écouté des personnes qui sont dans la moto. Moi, je venais pas de la vitesse, donc j'avais pas cette expérience. Mais j'avais l'expérience effectivement du sportif. Donc c'est déjà. Ça m'a beaucoup aidé. Mais après, c'est d'écouter, de dire, tiens, celui-là, ce petit jeune-là va bien. J'ai vu le petit Acosta, par exemple. Si j'étais aujourd'hui à m'occuper, à chercher un pilote en moto 3...
Je pense que t'es pas le seul.
Je serais pas le seul. C'est là que ça devient compliqué. Voilà,
c'est ça.
Évidemment, ça devient compliqué.
Mais effectivement, de suite, tu le vois. T'as aidé Fabio à ses débuts et...
Je l'ai aidé pendant longtemps.
Je voudrais rebondir par rapport à ça, sans rentrer trop dans la confidentialité, mais... Qu'est-ce qui fait justement que vous perdez Fabio? Parce que vous le perdez au meilleur moment presque, tu vois.
En grossissant et en étant
un petit peu taquin, vous l'apportez sur un plateau doré à la concurrence.
Oui, bah après, c'est un peu le jeu. Alors,
c'est un problème de financement.
Fabio, c'est arrivé, pour revenir à la question, c'était, il roulait avec la famille Conti, il faisait la Compi Cup. Donc nous, on était partenaire de la Conti Cup. Donc on nous a dit dès le départ, je me souviens des mots de Patricia Conti à l'époque, qui me disait, ça c'est le futur Valentino Rossi. Alors c'est vrai, quand on revoit avec le temps, on se dit, c'était un peu gonflé de dire ça, mais tout le monde me disait. Donc effectivement, je me suis dit, tant qu'à aider un jeune, en plus c'est un jeune qui est sympa, ses parents sont adorables. Enfin moi, je suis d'ailleurs très heureux pour eux avec ce qui se passe en ce moment. C'est un grand plaisir, même s'il ne roule plus pour nous. C'est bon pour le sport français, c'est bon pour ce jeune. Ça montre à d'autres jeunes qu'il n'y a pas besoin d'être milliardaire, alors, même si c'est difficile, pour venir gagner en MotoGP et faire la carrière qu'il fait. Donc maintenant, son père s'est énormément investi. Donc toute cette histoire-là, elle est belle. Mais on a démarré parce que effectivement, c'était du bouche à oreille, de la discussion, et ça se fait souvent comme ça. Après, faut y croire. Je l'ai aidé pendant très longtemps au départ. Après, j'étais en charge des contrats du Racing, donc ça a permis d'en parler rapidement aux Japonais en leur disant, attendez, l'année prochaine celui-là il va arriver, il faut qu'on l'aide. D'en parler à l'époque à Emilio Alzamora, j'ai dit, écoute, tu regarderas ce jeune, il va pas mal. Donc c'est aussi beaucoup de choses comme ça. Le temps que je pouvais passer sur un GP, c'était des choses à regarder, parler, écouter. Et puis voilà, après on le perd pourquoi? Parce qu'on a investi beaucoup, dans nos top pilotes, hein, donc avec Marc par exemple, parce qu'il faut sortir quand même des budgets. On est obligé, la pyramide elle monte, les budgets sont de plus en plus importants, ce qui est logique. Donc on effectivement on peut pas avoir tous les pilotes. Quand on a un pilote comme Fabio qui est le futur du MotoGP, c'est difficile, quand on a la star du MotoGP au même moment, de signer les deux. C'est compliqué. Donc, tout simplement, bon, moi, je m'en occupais plus à l'époque, mais j'aurais certainement pas fait mieux, malheureusement. Mais voilà, après, il faudrait que la marque s'investisse encore plus. Maintenant, là, on revient au retour qu'on peut en avoir. Il faut se calmer aussi. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir un bon produit. Nous, notre premier rôle, c'est d'investir dans nos produits, de sortir le meilleur produit possible et de se concentrer sur avoir le meilleur produit. Derrière, si on peut avoir des top pilotes, c'est bien.
Alors, justement, bien. Je vais couper la parole à Alexis, qui d'habitude est chargé de ça, parce que je vois qu'Eric en régie nous a envoyé aussi une question intéressante de Julien de Nancy qui demande justement entre le casque que porte Marc Marquez en course et le casque qu'on va retrouver dans le commerce, quelle différence y a-t-il ?
Alors, depuis 2 ans ou 3 ans, il y a une certification FIM maintenant pour les pilotes de MotoGP. Donc depuis 2-3 ans maintenant, on n'a plus tout à fait les mêmes casques. Ils sont très très proches. Je parle juste en termes de sécurité, ils ont fait évoluer certaines choses. Le casque est notamment un petit peu plus lourd, donc j'ai pas le détail, mais les casques sont légèrement différents. Mais jusque là, moi j'ai pris des casques dans le stock chez Chauvet France, je les ai envoyés au peintre, qui est Aérodiffusion d'ailleurs, pour pas le citer, un peintre français, et on lui envoyait les casques directement, il peignait les casques directement. Donc c'est vraiment les casques du commerce, et on choisissait absolument pas.
Après, c'est des intérieurs qui sont.
Alors, après, on peut jouer légèrement, ça c'est Mickaël qui va travailler là-dessus, mais on peut le faire aussi sur le casque standard. Aujourd'hui, il suffit d'acheter des joues différentes. Ouais. Honnêtement, il y avait très très peu de différence. En plus, ce casque-là avait été fait. Avec l'aide de Marc, hein, en travaillant, notamment là, pour un simple détail, la vision, enfin c'est pas un détail d'ailleurs, mais la vision très très basse, les casques ont quand même vraiment évolué à ce niveau-là.
Oui, l'ouverture, tu veux dire,
c'est oui, ça, le champ de vision, parce que Marc était quand même très couché sur sa moto à l'époque, et on a fait évoluer là-dessus, mais les casques, non, sont vraiment, vraiment...
Tu parles de l'homologation FIM.
C'est une certification.
Pardon.
Non, c'est un peu différent, l'homologation, ça va être quelque chose de national,
d'officiel,
et puis la certification FIM est c'est un peu à part.
C'est okay. Plus coûteux de produire un casque comme ça, c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas sur les casques du commerce ?
Non, alors là c'est une question de timing, hein, parce que tout simplement quand ils ont lancé la certification, il a fallu déjà sortir des casques pour les pilotes, et il y a pas mal de marques qui ont un peu galéré, même nous, hein, il fallait s'occuper déjà de faire suffisamment de produire pour faire suffisamment de casques pour les pilotes, et derrière effectivement ça va servir à la série, d'ailleurs il y a déjà des casques dans le
marché. Elle fait un peu polémique quand même cette norme.
Il y a toujours des polémiques quand quelque chose est nouveau. Moi,
puisqu'on sait qu'en gros, un casque, il agit quand il se casse, il absorbe le choc. Et là, de vouloir d'avoir un truc plus rigide.
C'est aussi la grosse. On peut reparler à l'époque de la. On parlait aussi de la certification de la norme Snell aux US et la norme européenne. Il y a toujours eu une discussion à ce sujet-là. Donc les pilotes américains, nous tous les pilotes jusqu'à Vermeulen avaient des casques, puisqu'ils venaient notamment des US ou d'Australie, ils avaient des casques normes américaines, donc plus lourds, plus rigides. Et d'autres pilotes européens prenaient des casques européens qui étaient donc qui se déforment un peu plus, qui amortissent mieux le choc, qui sont plus légers par contre. Donc après, c'est difficile de choisir entre deux normes. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être les meilleurs dans chaque norme, d'avoir les meilleurs résultats dans chaque norme. Après, de dire qu'une norme est mieux que l'autre, c'est toujours
une différence de philosophie de longue date que vous avez avec votre compatriote Arai, qui fait des casques très durs, là où Choé fait des casques qui absorbent les chocs, qui s'écrasent un peu. Je simplifie, hein.
Oui,
c'est... Il y a un peu de ça.
Après, on a toujours. C'est vrai que la philosophie de Choé, c'est toujours été de faire des casques très compacts, plutôt légers, compacts, parce que c'est aussi important pour la sécurité. Et puis après, d'être les meilleurs dans chaque norme, de prendre les normes du pays, d'être les meilleurs dans chaque norme. Donc si demain, la norme, d'ailleurs, elle évoluera en Europe, on essaiera d'avoir les meilleurs résultats et de les maintenir sur toute notre production, ce qui est quand même aussi un point, mais là c'est un autre débat. Je pense qu'il faudrait une autre émission pour en parler.
Justement, on arrive au terme de l'émission. On va faire une dernière question. Moi, j'ai envie de te poser juste, si tu peux y répondre rapidement, c'est aujourd'hui la durée moyenne d'un contrat sur un pilote, qu'est-ce que c'est? Et justement, par contre aussi, sur les décos, on voit de plus en plus de casques qui ressemblent plus aux autres parce que Red Bull est de plus en plus omniprésent. Mmh. Est-ce que ça, c'est pas gênant quand on est fabricant comme ça, notamment pour les problèmes de réplica, sachant que Red Bull est intransigeant là-dessus?
Alors là,
il te reste 2 minutes.
Responsabilité sur MotoGP, donc je peux en parler. Oui, moi je préférerais effectivement qu'on ait sur la tête de nos pilotes des casques avec l'identité Choé totalement, bien évidemment. Après, c'est à nous de voir, on peut très bien essayer d'imposer ça.
Ça peut être un point bloquant d'un contrat, par exemple.
Oui, bien sûr. Oui, c'est un point, mais c'est certain que
Et aujourd'hui, donc un contrat, un pilote qui va devenir, qui passe en MotoGP, par exemple, qui n'est pas chez vous, vous allez vous engager, comme tu le disais, créer une relation, c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans, là? Il n'y a pas de
souvent, on a signé, notamment pour Marc, on signait tous les 2 ans. Là, je pense qu'il y avait un contrat qui a été signé plus longtemps, parce qu'on croit aussi. Je suis un petit peu pour défendre un peu Marc Marquez quand même.
Qu'on a un peu malmené ce
vrai, aujourd'hui.
Mais bon, il a quand même prêté le flanc aux critiques.
Oui, non, c'est vrai que ce week-end, ça n'a pas été. Je suis surtout un peu, j'étais forcément déçu parce que j'aime le sport, mais on voit vraiment qu'il souffre, que c'est compliqué. Moi, je pense qu'il va s'en sortir. Je mets quand même on le souhaite tous parce qu'il y a eu d'autres pilotes qui ont eu des moments difficiles. Alors, regarde Johan, pour des raisons différentes, qui a vraiment une traversée difficile. Et aujourd'hui, on le voit, il brille, c'est vraiment top. Rorgué, qui a eu des difficultés.
C'est encore autre chose.
On ne sait pas, mais je pense que là, il se bat parce que c'est un battant, il ne veut rien lâcher. Et c'est compliqué, mais la moto aussi, elle n'a pas évolué non plus. Je ne suis pas dans le secret des dieux.
On en a parlé, les problèmes techniques, etc. Mais c'est vrai qu'on sent que lui aurait besoin d'un soutien peut-être psychologique, d'un accompagnement un peu là, plus...
En tout cas, il peut mettre sa tête au frais et elle est bien protégée, on va dire
fait au maximum.
Parce que le petit frère aussi, c'est pas ça.
Non, mais...
une dernière question. Combien de casques sur une saison pour un gars comme Marquez ou son frère ou,
Ça dépend si...
Oui, non, mais hors chute, par exemple,
sur un contrat... Non, ils ont la location, je crois, de 4 ou 6 casques au départ, mais...
D'accord, oui, mais après, c'est
en fonction. On va pas les laisser sans casque.
Sachant que les casques sont entretenus après chaque séance, nettoyés, démontés, séché, etc.
Ok. Bon, mais écoute, merci Pascal. On va revenir parce que je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à dire autour des casques. Merci Alexis. Okay. Merci Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien, à la semaine prochaine. Michel a raison. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. On compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien et bon Grand Prix de Catalogne.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.